Un podcast du COMED, le Comité pour la santé des exilés.
Au carrefour de multiples vulnérabilités, les femmes reçues au COMED vivent des situations qui peuvent impacter leur état de santé de façon négative. À la suite des premières recherches et actions conduites par le COMED sur des phénomènes de double violence et de double discrimination à l'égard des femmes exilées, une coordination pluridisciplinaire femmes et genre a été mise en place en 2012 pour affiner les données d'observation, sensibiliser l'équipe et les partenaires du COMED et proposer de nouvelles actions. En février 2025, les salariés et les bénévoles qui travaillent dans l'un des 5 centres de soins du COMED se sont réunis au siège à l'hôpital Bicêtre afin de travailler ensemble sur des thématiques communes. Cet épisode est une partie de ce qui a été transmis ce jour-là par deux médecins référentes au COMED sur les questions de genre.
Parfois, vous pourrez entendre des interventions de la salle.
Je m'appelle Lucine Bess, je suis médecin au COMED PACA depuis 3 ans à peu près, un peu plus. Et depuis 1 an, on a décidé d'ouvrir des créneaux spécifiques dédiés aux femmes le lundi matin. Parce qu'on s'est rendu compte que les femmes, elles mettaient rarement leurs besoins de santé en premier et en avant. Elles avaient toujours soit à s'occuper des enfants, soit à s'occuper des autres urgences. Et que leurs besoins de santé arrivaient souvent comme une urgence. À un moment, il y a un seuil qui est dépassé et donc elles ont besoin d'une consultation rapide. Et donc nous, on a essayé de garder 2 créneaux un peu disponibles presque d'une semaine sur l'autre pour pouvoir répondre à cette sensation d'urgence réelle ou ressenti, peu importe, pour que quand le besoin de santé apparaît, on puisse y répondre rapidement et qu'il n'y ait pas de passage par les urgences, ou en tout cas moins, et qu'on puisse initier un traitement à ce moment-là. Voilà, j'ai pas de formation spécifique en gynéco, et d'ailleurs les consultations dédiées aux femmes contiennent de la gynéco, mais pas du tout uniquement. Donc c'est une patiente que je rencontre depuis septembre 2024, elle m'a été adressée par Magali, la psychologue du COMED PACA, qui la suit depuis juillet, pour faire le point sur des douleurs au niveau des jambes, mais plus exactement au niveau de cicatrices laissées par des actes de torture en cours de demande d'asile. Elle est aussi la maman de née en France en 2024. Je la vois de façon assez régulière, et puis j'ai introduit un traitement antidépresseur pour l'aider à calmer ses angoisses, faciliter son sommeil. Je lui ai proposé une crème pour appliquer sur ses cicatrices et petit à petit s'habituer à ce corps marqué par la violence. Elle exprime de la honte et du dégoût face à ce corps, ne peut pas regarder ses cicatrices sans qu'immédiatement les souvenirs de torture l'envahissent. Je la croise dans la salle d'attente le lundi de la rentrée en janvier. Elle me dit qu'elle est malade et me demande un rendez-vous. Puis elle refuse celui que je lui propose, puis redemande un rendez-vous avec moi à Magali. Et je la reçois finalement le lendemain. Elle a fait une prise de sang la veille et me tend le résultat en me disant qu'elle a un problème. Ce sont des résultats de bêta-HCG positifs. Le temps que je dise qu'elle est enceinte, elle me lance qu'elle a eu un problème, qu'elle voulait pas, qu'il a abusé d'elle, que ses collègues l'ont fait boire, qu'elle avait jamais bu avant et qu'elle n'était pas d'accord pour aller avec lui, qu'il a profité pendant qu'elle n'était pas là, qu'elle dormait. Elle voudrait porter plainte, mais ses amis, entre guillemets, l'ont dissuadée. Il n'a pas de papier, ça va lui porter tort. Il ne faut pas faire d'enfant quand on n'a pas une bonne situation. Il s'est excusé, mais moi, j'ai trop souffert. Elle veut avorter le plus vite possible. À partir de là, au moment où elle m'a dit ça, elle prend un mouchoir dans sa main et elle est prise de nausées à chaque fois qu'elle parle. Donc, on ne peut plus vraiment parler. Donc, je commence à organiser la prise en charge et à me concentrer sur l'accès à l'IVG. Sa C2S est expirée. J'appelle, j'écris une lettre pour qu'elle se rende au planning familial l'après-midi même. Elle y va. Mais le planning familial à Marseille ne propose que des IVG collectives le jeudi de la semaine d'après. Collectif, ça veut dire qu'il y a une prise de médicaments en commun. Donc c'est une réunion quoi où il y a une information collective et une prise des premiers traitements médicamenteux. C'est légal, ouais. C'est légal et c'est même promu par pas mal de plannings, notamment dans le 93. En fait, l'information est collective, la prise de traitement est collective. L'échographie, s'il y en a besoin d'une, elle est faite par en collectif et c'est comme ça qu'elles font au planning et c'est tous les jeudis après-midi. Bah, en fait, il y a des études qui ont montré que pour plein de femmes, c'était très adapté. Et qu'elles se sentaient moins seules et qu'elles étaient bien. Elles étaient bien, ouais. En tout cas, c'est une option qui est possible. Donc, il y a les mêmes critères que la prise de médicaments. On en reparlera tout à l'heure. Elle, ça lui convient pas parce qu'elle trouve que c'est dans trop longtemps. Peut-être aussi que le côté collectif lui plaît pas. Donc, elle refuse aussi l'orientation que le planning familial lui propose parce qu'elle voudrait prendre mon avis. Donc, moi, j'ai plus de consultes parce que je consulte le lundi et le mardi. Et puis, on est déjà le mardi soir. Donc, j'ai plus de consultes pour la recevoir avant le lundi d'après. Donc, on organise au téléphone un nouveau rendez-vous le lendemain au centre de planification. Mais elle n'y va pas. Le jeudi non plus, elle n'y va pas. Et le jeudi soir, je l'appelle pour essayer de comprendre pourquoi elle n'y va pas, les blocages qu'elle a. Et j'essaye d'organiser un accompagnement avec une de nos bénévoles. Parce qu'elle dit, je suis très fatiguée, j'y arrive pas. Le rendez-vous est pris pour le mardi suivant à 9h30 au Comed pour aller ensemble au centre de planification. Lors de la discussion téléphonique, elle me dit, Lucie, tu t'inquiètes beaucoup trop, tu as trop souffert pour moi. Oh, d'accord. J'avais effectivement la sensation de ne pas réussir à organiser les choses pour lui rendre possible et facile cette IVG. Ne pas avoir aussi réussi à la protéger de cette violence et de cette grossesse non désirée. Le mardi matin suivant, elle arrive en avance et je la reçois rapidement entre deux consultations pour savoir comment elle va et puis lui proposer un autre rendez-vous pour reparler des maladies sexuellement transmissibles, de la plainte, etc. Et à ce moment, elle m'annonce « c'est parti » en me tendant à nouveau un tas de papiers. Et là, je comprends en les lisant qu'elle a finalement déjà avorté avec une prise de comprimé dès le vendredi dernier et le dimanche avant ma consultation à l'hôpital Nord, adressée par une autre médecin qu'elle avait déjà vue le jeudi. Donc en fait, elle était en capacité de s'organiser par elle-même. Elle est cependant très fatiguée, et puis moi, je n'ai pas le temps, j'ai une consultation pleine, donc on se met d'accord pour en parler la semaine d'après. Je sais que les femmes qu'on reçoit subissent des violences, je sais qu'elles en subissent aussi en France. Malgré cela, quand elle m'a annoncé son viol et cette grossesse non désirée, je me suis retrouvée comme sidérée, prise dans une urgence de trouver des solutions pour soulager, soutenir et accompagner cette patiente. Sans réussir à prendre le temps de lui demander comment elle allait, sans prendre le temps de lui proposer différentes options pour faire le choix de son avortement, sans m'assurer qu'elle n'était pas en danger dans l'immédiat, qu'elle ne subissait pas de pression de son entourage pour faire cet avortement ou pour d'autres raisons. On peut noter plusieurs éléments qui peuvent paralyser notre pensée. Il y a des choix stratégiques à opérer. Quelles sont les priorités, le danger imminent, l'avortement, la plainte? Les choix se bousculent. Quelle est l'urgence? Par quel bout prendre la situation? La culpabilité. Pourquoi je n'avais pas parlé de contraception ni de prévention à cette femme avant? La sidération face à la violence en miroir avec nos patientes. La complexité des situations. Le temps d'après-coup, dans lequel on pourrait accompagner la patiente vers une certaine forme d'élaboration, est immédiatement écrasé par un nouvel événement, ici la convocation à la CMDA, et l'événement viol est relégué à l'arrière-plan. C'est déjà du passé, on n'en parle plus.
Pourquoi entendre des violences actuelles ne fait pas le même effet que de soutenir des femmes dans leur reconstruction après des violences passées?
Comment travailler notre posture d'écoute pour améliorer notre accueil? Comment protéger nos patientes au maximum? La première réponse est leur donner de l'information sur la continuité à tenir en cas de rapport non protégé, sur les possibilités d'avortement, les dépistages des IST, etc. Mais c'est aussi d'en faire un sujet entre nous, parce que ça permet d'être prête à entendre et à accompagner, à soutenir dans le respect du rythme et des choix de nos patientes. J'ai été à la fois agitée et sidérée, enfin, on est dans un espèce de truc comme ça où on ne sait plus trop comment, par quel bout prendre le truc. C'est important de le voir et de voir devoir faire ça et essayer de décaler les problématiques.
Ne pas figer les personnes dans un statut de victime, ça permet aussi de changer un peu la posture des accompagnants. En fait, les personnes, elles ont subi quelque chose qui est grave. Elles sont victimes de ça, mais elles ne sont pas uniquement victimes. Elles ont aussi tout un tas de potentiel et elles ont aussi tout un tas d'identités. Ma patiente, clairement, elle était tout à fait en capacité de trouver des solutions par elle-même. Et c'est bien aussi de se le rappeler des fois quand on a l'impression qu'on ne peut rien faire. Bon, qu'il y a aussi du potentiel dans chacune d'entre nous. Parler des violences, c'est aussi informer en amont. Depuis janvier, là, je pense que j'ai présenté la pilule en main à au moins 5 femmes. Parce qu'en fait, je ne peux pas savoir si elles vont être violées ou pas, si elles vont avoir un rapport consenti mais sans capote ou un rapport... Bon, bref, j'en sais rien ce qui va leur arriver, mais en tout cas, si elles ont accès à l'information, elles pourront s'en saisir quand elles en auront besoin. Il faut aussi se rendre compte que nous, on a la plupart accès à de l'éducation à la vie affective et sexuelle quand on était petite, ce qui n'est pas le cas de nos patientes.
Et donc, de leur rappeler des trucs, genre la pilule du lendemain, l'IVG, c'est possible, etc. Même si ce n'est pas en urgence et dans un moment nécessaire, c'est quand elles seront dans un moment où elles en auront besoin, elles pourront mobiliser ces informations ou au moins, elles auront quelque part dans la tête que ça existe.
Je suis Marie Tétrudé, je suis médecin depuis j'ai plus de 15 ans au Comed. Et je suis médecin généraliste et j'ai fait une formation complémentaire en gynécologie obstétrique et un autre DU sur la régulation des naissances. En tout cas, depuis maintenant 7 ans, je ne fais plus de consultations de médecine générale et je fais des consultations de santé et sexualité pour les femmes au centre de santé de Bicêtre. Dans cette intervention, comme l'a dit Lucie, on va parler largement des violences. Parce que quand on parle de la santé des femmes, et en particulier de la santé des femmes exilées, c'est impossible de ne pas parler de violences. Les situations dans lesquelles les femmes vivent en France nous mettent en colère, continuent de nous mettre en colère. Alors, il est possible que vous sentiez de la colère quand je parle, mais elle ne s'adresse pas à vous. Elle s'adresse, c'est bien cette colère-là dont tu sais. Donc, dans cette première partie, on va voir l'Observatoire qui est largement enrichi, nourri par tout le monde ici et qui sont aussi des réflexions sur la santé des femmes à l'intersection de multiples discriminations. Et c'est des discussions qu'on a largement entre nous. On est amené à parler de santé des femmes en dehors du Comed. Depuis l'année dernière, il y a une formation calendaire sur la santé des femmes. Ces deux dernières années, j'ai regardé l'activité. En fait, on a fait plus d'une dizaine d'interventions et de formations sur ce thème en particulier. Ça augmente et les besoins augmentent. Alors, les femmes représentent 50,2% de la population étrangère en France. Et elle n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Mais la figure de l'étranger, ça reste quand même toujours beaucoup dans les médias et partout un homme. Donc ça dit quand même quelque chose de l'invisibilisation de cette population. Au Comed, finalement, les 5 premières nationalités, tous dispositifs confondus, c'est Congo, Haïti, Guinée-Conakry, Côte d'Ivoire, Algérie. Les femmes qu'on reçoit dans nos dispositifs viennent principalement de pays où les discriminations en tant que femmes en matière de santé, d'éducation, d'accès au travail sont particulièrement élevées. Ce sont les inégalités de genre. Alors, bien souvent, elles n'ont pas eu ou très peu eu accès à des informations de prévention, notamment dans le domaine de la santé sexuelle. Elles viennent de pays où l'IVG est interdite, où la contraception est sous l'autorité maritale, où le sujet de la question de la sexualité est tabou et il ne peut répondre qu'à une seule norme. Les femmes qu'on accueille au Comed sont plutôt jeunes, la moitié d'entre elles a moins de 36 ans. Est récemment arrivée en France, 2 ans de médiane. 38% d'entre elles sont allophones. Elles sont plus souvent seules en charge d'enfants, 18%. 46% des femmes sont seules, qu'elles aient ou non des enfants en France. Et près de 40% d'entre elles ont des enfants en France, qu'elles soient seules ou non. Donc, un truc, c'est la question des enfants au pays. On retrouve les mêmes pourcentages de femmes et d'hommes qui ont des enfants au pays, 38,5%, et le « avec lien » qu'on remplit, c'est exactement la même chose pour les hommes et pour les femmes. Enfin, sur la situation, alors elles sont quand même majoritairement scolarisées, parce que c'est 12,5% qui n'ont jamais été à l'école, et secondaire, universitaire ou professionnel, c'est 68%. C'est un peu pour combattre aussi les idées reçues. Je crois qu'on n'a pas besoin de les combattre ici au sein du Comed, mais il y a toujours cette figure des étrangères, des étrangers précaires qui n'ont jamais été à l'école et qui ne comprennent pas ce qu'on leur raconte. Donc voilà, c'est important de le dire. Plus d'un tiers d'entre elles n'ont pas eu de profession. Et là, bon, ça dit quelque chose des ressources avant le départ. Quand même, globalement, elles sont dans des situations de séjour précaires, avec des difficultés d'hébergement, qu'elles n'ont pas de ressources financières. Enfin, bref, je pense qu'on le sait. Un chiffre à retenir pour plus tard, c'est que 34% des femmes qu'on reçoit dans nos dispositifs sont des demandeuses d'asile. Notre observatoire de l'état de santé des femmes met en évidence des inégalités de santé liées au genre. Elles souffrent plus souvent de virus de l'hépatite C, étant plus souvent confrontées à des situations de violence liées au genre, elles ont aussi plus souvent un risque de développer des troubles psychiques graves. elles ont deux fois plus de cancers. Quand je dis plus, c'est par rapport aux hommes. Elles ont trois fois plus de maladies cardiovasculaires et six fois plus d'infections au VIH. Ces observations témoignent, en plus de l'exposition à des situations à risque, d'une plus grande difficulté d'accès aux soins et à leur prévention. Et quand on regarde du côté des enquêtes nationales, qui ne sont pas non plus très nombreuses, mais à chaque fois qu'ils montrent des choses qui vont dans ce sens-là, elles sont par rapport aux femmes françaises nées en France. Les femmes étrangères sont trois fois plus nombreuses à n'avoir jamais eu de dépistage du cancer du col de l'utérus. Le taux de non-recours à la contraception est 10 fois supérieur qu'en population générale. Et le risque de mort maternelle est 2,5 fois plus important pour les femmes étrangères et encore augmenté à 3 fois plus important pour les femmes qui sont nées dans un pays d'Afrique subsaharienne, aux Caraïbes ou en Amérique latine. Alors, on arrive à l'Observatoire des violences de genre. Là, c'est un observatoire sur 2017-2023. Parmi les personnes qui ont eu au moins 3 consultations dans nos lieux de soins, 53% des femmes ont subi des violences de genre et 11% des hommes. Proportion qui est augmentée quand on regarde en consultation de psychothérapie, ce qui montre le lien entre le fait d'avoir subi des violences de genre et le risque de souffrance psychique. Parmi l'ensemble des femmes qu'on reçoit et qu'on suit au COMED, 26,5% ont subi des violences de genre au pays d'origine, 15,8% en France, 13% sur le trajet. Concernant le viol, c'est plus d'un tiers des femmes que l'on reçoit au COMED qui ont été violées. La moitié des viols se fait au pays d'origine, plus d'un tiers en France et 14,7% sur le trajet. Et peut-être à chaque fois se rappeler que ces chiffres, c'est au moins ce qu'on enregistre dans la base, mais que c'est un minimum. S'il y avait besoin de montrer le lien entre la précarité sociale et le risque de violence sexuelle, on a des données. On a des enquêtes qui l'ont démontré et qui le montrent. Avec celle du docteur Kouani, l'absence d'hébergement multiplie par 2,6 le risque d'agression sexuelle. Et celle plus ancienne, tienne de l'enquête Parcours en 2018, qui montre que l'insécurité administrative du séjour, l'instabilité du logement et la situation d'hébergement par des proches sont des facteurs de surexposition aux violences sexuelles. Et il y a l'enquête des Saphirs que je cite juste pour information ici. Dans notre observatoire, les victimes de violences de genre se trouvent plus souvent en détresse sociale. C'est 55% des femmes qui ont vécu des violences de genre et qui se trouvent en situation de détresse sociale. Et c'est 13% des hommes. Ça dit aussi que la détresse sociale n'a peut-être pas les mêmes effets chez les hommes et chez les femmes. Dans les questions de précarité sociale, il y a quand même un truc, c'est que peut-être que c'est plus évident de se dire, bah oui, quand on est à la rue, il y a plus de risques de violence. Le fait d'avoir vécu des violences de genre répétées, ça peut aussi avoir des conséquences d'être beaucoup plus dans une situation d'isolement social, d'isolement relationnel, de pas trouver la possibilité de rentrer en interaction avec les autres, et donc de rester dans une situation de précarité sociale importante. Enfin, il y a des hypothèses, c'est pour complexifier un peu le lien causal entre les deux. Donc, on a vu déjà à travers l'Observatoire un certain nombre de facteurs de fragilisation de l'état de santé des femmes, de facteurs qui vont venir rendre plus difficile le recours aux soins. Enfin, c'est la question de l'exil, hein. C'est la question de la langue, c'est la question de la précarité social, je ne vous fais pas en fait le détail, ce n'est pas la peine. Mais quand même pour dire un mot de la précarité de la vie quotidienne et du contexte politique, ça veut dire aussi pour personne de trouver donc, des solutions au quotidien pour répondre aux besoins vitaux. On voit bien en quoi ça peut reléguer au second plan les questions de santé. C'est l'exposition aux violences sexuelles, comme on l'a vu, avec le risque d'avoir des infections sexuellement transmissibles, qui les expose aussi beaucoup plus à des grossesses non voulues, non désirées, à des troubles psychiques, au risque de développer des troubles psychiques, et autant de situations qui peuvent freiner le recours aux soins parce qu'on a peur de rencontrer l'autre ou parce que c'est risqué de montrer son corps. C'est aussi changer d'hébergement. Parfois tous les jours et dans des lieux très éloignés. Donc, quand on doit courir d'un bout à l'autre de l'Île-de-France, la question de pouvoir déjà repérer des lieux de soins de proximité, de pouvoir se rendre au rendez-vous, c'est compliqué. Ça pose aussi la question de, on l'a vu, une part des femmes qu'on reçoit est en charge d'enfants, que ce soit, alors là, dans notre observatoire, c'était leur enfant, mais c'est la question aussi d'être de l'hébergement et de garder les enfants des autres contre hébergement. On a aussi beaucoup de femmes qui doivent aller chercher à l'école les enfants d'hébergeants ou d'autres. Et donc, la question des horaires de nos lieux de soins pose question. Est-ce qu'elles peuvent venir jusqu'à nous ? Et la question de l'adaptation de nos lieux de soins à la consultation pour ces femmes pose aussi la question. On l'observe au centre de santé, mais je pense que dans les 10 d'autres dispositifs aussi. Est-ce qu'on arrive à garantir que ces femmes puissent avoir une consultation sans que des petites oreilles écoutent la consultation ? Un mot, ça ne va pas être un exposé complet, mais c'est aussi pour avoir bien en tête, on parle des difficultés d'accès et de recours aux soins. Lors de suivi de grossesse, par exemple, pour juste donner un exemple, hein, pour les femmes, même quand elles ont accès aux soins, il y a des inégalités de santé qui persistent largement. Et un exemple que je vous donne, c'est celui du suivi de la grossesse. Quand elles sont suivies, la proportion de soins sous-optimaux est plus grande parmi les femmes étrangères, c'est 78%, que parmi les Françaises, 57%. Et différence qui est encore plus marquée pour les femmes nées en Afrique subsaharienne, 95%. Donc elles ont recours aux soins, elles sont suivies, mais elles ont des soins sous-optimaux pour une majorité d'entre elles. Notre système de santé est-il en mesure de s'adapter aux personnes ? Et après, avant d'évoquer les différences liées de traitement liées à l'origine, et sans faire ici un exposé complet, on peut s'arrêter sur juste simplement être femme et recevoir des soins, les questions des notions de genre et santé. Certes, on sait tous et toutes, les femmes vivent plus longtemps, mais en moins bonne santé. Les données produites en recherche biomédicale sont conçues à partir de cadres de référence qui sont élaborés et pensés pour des populations d'hommes, et qui sont appliqués aux femmes sans se poser de questions. Les essais cliniques, ce n'est que depuis 15 ans en Europe qu'il y a une loi qui oblige les essais cliniques à se faire chez les femmes aussi. Ça a changé, et cette loi est arrivée quand on a commencé à faire des recherches sur les cancers gynéco chez les hommes. La question des représentations genrées ont un impact sur la santé. C'est l'exemple des maladies cardiovasculaires. À symptômes équivalents de suspicion d'infarctus, les femmes consultent plus tard que les hommes. En partie parce que dans la pensée dominante, l'infarctus reste une maladie d'homme, mais aussi parce que les soignantes ne se comportent pas de la même manière devant des femmes et des hommes qui ont des symptômes similaires. C'est l'enquête que vous avez vu passer dans les mails du professeur Bobia au CHU de Montpellier qui met en évidence des priorités d'urgence en fonction du genre et de la couleur de peau. Donc, on a distribué, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc-là, on a distribué des images avec juste des photos à une population de soignants, on leur a demandé de prioriser qui était prioritaire, c'était les mêmes symptômes pour tous, et en fait, ils ont donné priorité plus largement aux hommes qu'aux femmes, et plus largement aux blancs qu'aux noirs. Précarité et santé, on connaît les inégalités sociales de santé qu'on a. On a plus de risques d'être en mauvais état de santé quand on est ouvrière que cadre. Par contre, peut-être que ce qu'on a moins en tête, que les femmes représentent aujourd'hui la majorité des personnes en situation de précarité. C'est 70% des travailleurs pauvres, 85% des familles monoparentales et elles occupent 82% des emplois à temps partiel. Un mot, je continue sur... les femmes étrangères. Alors, les femmes étrangères, et d'autant plus si on a des difficultés de communication et qu'on ne fait pas appel à un interprétariat professionnel, on le voit, on en est les témoins au quotidien, qu'il y a un risque majeur que les actions de santé, que les propositions de soins se fondent sur des présupposés, des préjugés basés sur des stéréotypes culturels. Et aussi sur l'expression de sentiments racistes et xénophobes. Et ces discriminations, elles sont particulièrement fréquentes et décomplexées dans les domaines de la santé sexuelle et de la périnatalité. Un exemple, c'est la question de la contraception, la prescription de méthodes de contraception. Alors, Déjà, simplement, en France, on parle de normes contraceptives. Je ne sais pas si vous savez ce truc-là, mais normes contraceptives, c'est vraiment un schéma médicalisé et stéréotypé. On a tous et toutes en tête un truc un peu normatif de on commence la vie sexuelle, on utilise des préservatifs, on se met en couple, on se stabilise, on utilise la pilule, et puis une fois qu'on a obtenu les enfants voulus, on passe au dispositif intra-utérin. Donc ça dit quelque chose déjà, cette norme, et cette norme, elle est très présente dans les textes et elle va influencer prescription de contraception. Pour les femmes étrangères, il y a en plus des injonctions supplémentaires. C'est l'exemple un plan contraceptif versus pilule. Un plan contraceptif, vous savez, c'est le petit bâtonnet qu'on met sous la peau qui a une durée d'action de 3 ans. Il y a 7 ans professionnels qui vont être tentés de recommander plutôt l'implant pour des femmes étrangères plutôt que la prise de pilule, pensant les femmes étrangères incapables de comprendre les explications de prise de pilule ou en se disant de toute façon elles vont oublier et puis en plus elles sont à la rue et il faut être sûr qu'elles ne tombent pas enceintes. Peut-être que ces professionnels de santé pensent bien faire, mais quand ils font ça, ben, ils les jugent incapables. Ces professionnels choisissent à la place des femmes. En amont du choix de la méthode de contraception, on peut se demander si la question n'est pas plutôt celle de l'autorisation à avoir un enfant. Les femmes à la rue, sans papier, ont-elles le droit d'avoir des enfants? Si on en juge leur exclusion de la PMA lorsqu'elles ont l'aide médicale d'État, la réponse est plutôt non. La question est évidemment plus complexe si l'on regarde du côté des femmes roms, où identifiées comme telles, les stéréotypes culturels sont un peu différents, mais l'effet est le même sur les soignants. Une absence de proposition de choix. C'est Dorothée Prudhomme, vous l'avez vu aussi passer dans les mails, qui met en évidence dans ses recherches au sein d'un service de gynécologie, et je cite, « Les médecins considéraient comme trop difficile et trop coûteux en temps d'aborder la question de la contraception avec les patientes qu'elles identifiaient comme roms. Et elles renonçaient la plupart du temps à évoquer les possibilités contraceptives avec elles au nom du respect de la différence culturelle dans une vision stéréotypée qui assignerait les femmes très tôt et de manière durable à la maternité. Cette idée que les femmes roms ou identifiées comme telles, elles ont des enfants très tôt et que toute la vie elles veulent des enfants et que donc on ne va pas leur parler de contraception. Or, ces représentations sont parfois en décalage avec les attentes de ces femmes en demande d'informations sur les contraceptifs. Elles éprouvent souvent des difficultés à exprimer cette demande du fait de la langue et des rapports de pouvoir perçus dans la consultation. Un autre discours de culturellement spécifique, c'est celui que j'ai entendu autour du dépistage de la trisomie 21 lors de la grossesse. Donc, dépistage, c'est on dose un risque de trisomie 21 au premier trimestre avec une échographie et une prise de sang. Et en fonction de ce risque, on va rechercher s'il y a une trisomie 21. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on propose aux femmes une interruption médicale de grossesse si elles le souhaitent. Et on a montré dans les études que c'était moins proposer ce dépistage aux femmes étrangères. Et certains professionnels ont pu justifier ça en disant « Mais de toute façon, culturellement, ces femmes n'auraient pas recours à l'interruption médicale de grossesse, donc je ne leur en parle pas. » Je termine quand même, parce que je crois que je ne peux pas ne pas parler du syndrome méditerranéen, mais je ne vais pas le développer ici. C'est juste une illustration supplémentaire et peut-être... Et donc, c'est ce syndrome méditerranéen qui n'existe pas, hein, mais qui existe pour beaucoup de soignants et qui amène les soignants à minimiser les douleurs des femmes noires et arabes. Et on a tous entendu parler de ces 3 femmes qui ont été victimes ces dernières années avec Naomi Musonga, Yolande Gabriel et la jeune, très jeune Aïcha. Pour aller plus loin sur ces questions de discrimination et de racisme, écoutez le podcast de la série documentaire « Ce que fait le racisme à la santé ». Donc, les femmes exilées sont victimes de discrimination parce que femmes, parce que précaires, parce que étrangères. On pourrait aussi développer, mais on ne va pas le faire là, mais auxquelles s'ajoutent d'autres formes de discrimination parce qu'on n'est pas cru alors qu'on est une enfant. Parce qu'on est rome ou identifié comme tel, parce qu'on est lesbienne, parce qu'on est trans, parce qu'on est trop vieille, parce qu'on est musulmane, parce qu'on est en situation de handicap, parce que, enfin voilà, on peut en rajouter pas mal là-dessus.
Depuis 45 ans, le Comed agit pour la santé des exilés et la défense de leurs droits. Plus d'informations sur www.comed.org.